Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast La Parole aux orthophonistes. Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice, et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui, je reçois Élodie. Bonjour Élodie.
Bonjour Sarah.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices ?
Bien sûr. Que dire déjà que je suis orthophoniste depuis 2012 maintenant, diplômée de la faculté de Marseille. Je suis aussi et avant tout, je dirais, maman de Mazarine qui a 3 ans et Suzanne qui a 1 an. Je dis avant tout parce que j'ai aussi une vie personnelle, évidemment. Voilà, je suis niçoise, j'ai fait mes études à Marseille, donc je suis restée 9 ans à Marseille et je suis depuis 2015 arrivée à Paris pour m'installer en tant que libérale puisque j'étais surtout hospitalière à Marseille.
Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à Paris ?
Ah, l'amour, ça va.
C'est souvent comme ça. Hein.
J'ai tout quitté. Alors, à regret des fois au niveau professionnel, parce que j'avais beaucoup de choses qui me rendaient heureuse, hein, puisque j'ai connu pas mal de services, de personnes importantes au niveau professionnel dans ma vie. Mais j'ai retrouvé aussi mon amour de toujours du lycée, par hasard, voilà, en 2014. D'accord. Et suite à nos retrouvailles, j'ai rejoint Antoine à Paris.
Ok, super.
Parce qu'on pourrait croire que tout est facile quand on change de ville, etc., et croire que les vies sont toujours parfaites et stables, mais c'est vrai que ça a été un sacré chamboulement professionnel.
J'imagine, parce que déjà tu travaillais en service hospitalier, donc c'est quand même particulier, tu es vraiment plongée au cœur d'un service avec tout le temps des professionnels, souvent avec des professeurs émérites, etc. Et du coup là tu t'es retrouvée à Paris où tu connaissais, tu avais un réseau ou pas du tout au départ ?
Pas du tout. Alors, un peu par des publications que j'avais faites, des équipes qui se rencontraient sur des lieux de congrès. Donc, oui, j'avais des liens avec des services hospitaliers parisiens. Mais c'est vrai que je suis arrivée comme ça, en rachetant une patientèle, en essayant de me faire connaître et en découvrant un peu la vie à la fois de libérale à 100%. Et c'est comme ça que j'ai créé les apéros ortho.
D'accord.
Pour mes voisins et me dire, tiens, je suis pas toute seule dans la rue. Je le voyais hein, sur Google Maps, il y avait plein de cabinets partout, mais personne n'allait vers les uns et les autres. Donc j'ai dit, je vais faire une publication qui veut prendre un verre avec moi pour se présenter. Je suis nouvelle dans le quartier. Et de là, on a été 30 à cette soirée.
Ah oui!
Donc, et depuis, ça perdure. Alors, un peu moins maintenant depuis que je suis maman et j'ai pas mal de choses aussi au niveau pro dans ma vie. Donc, je suis moins régulière. Mais avant, un jeudi par mois, il y avait les apéros ortho. Alors, dans le 11e, parce que je cherchais un bar et que ce bar nous reçoive aussi sans pour autant déposer une caution et que ça soit assez libre. Il fallait quand même faire une petite recherche. Mais maintenant, j'ai mon réseau de bars parisiens dans le 11e, et on tourne, et pour le coup, on n'a jamais fait le même. Donc,
Ah oui, effectivement, il y a de quoi faire. Et donc, c'est toi qui organises à chaque fois ?
Oui, c'est moi qui organise. Ça a permis aussi à certaines orthophonistes de s'associer, de faire plein de choses dans la vie, de créer leur cabinet. Moi, j'ai rencontré Émilie Benchimol aussi comme ça, un apéro. Après, on a travaillé ensemble.
Émilie Benchimol qui avait été interviewée aussi dans un épisode.
Oui, parle parce que ça fait partie des podcasts. Et du coup, c'était voilà, c'est super qu'il y ait une bande d'équipe, une bande d'ortho voilà, qui est toujours fidèle au rendez-vous du jeudi.
Et vous êtes monté jusqu'à combien en termes de nombre sur ces apéros ortho?
Alors, c'est très variable. Il y a des
Oui.
fois où on fait la solitude. on pouvait être trois. Et avec mon ami Philippe, on faisait un peu les piliers de comptoir et ça nous allait aussi. Et on peut être 40 pour les événements comme l'apéro de Noël, la galette des rois et l'apéro de fin d'année.
Ah oui, donc effectivement, ouais, super. Et je me demande, vous êtes combien dans le quartier? Tu as une idée ou pas?
Alors ça, j'ai jamais vraiment chiffré, mais on est pas mal. Rien que tu vois, si on prend ma rue dans laquelle j'exerce, donc autour de l'atelier des Lumières, on est à peu près 5 cabinets.
Ah d'accord, effectivement, donc dans une même rue alors.
Ouais, dans mon coin de rue, il y a déjà 3 cabinets. Donc,
D'accord, ok.
assez dense quand même.
Ouais.
Mais pour autant, on est toujours voilà, content de se rencontrer. On ne se connaît pas encore tous dans l'11e, donc
Oui.
je suis toujours ravie de faire la connaissance de nouvelles orthos, enfin, de nouveaux orthos du quartier.
Est-ce que tu sais si ça a pris dans d'autres arrondissements?
J'ai eu la demande ouais, de déplacer un peu mes apéros, mais finalement, bah, moi, la réponse est très simple, c'est que je fais vraiment ça, bah, je prends ça sur mon temps pour chercher un bar, etc. Donc, c'est difficile de déplacer les apéros, notamment par un réseau de bars que je commence à avoir. Mais certaines l'ont créé, je crois, dans le 13e. Il y avait des soirées. Et puis, dans certaines villes, par exemple, les Marseillais m'ont appelé pour savoir bah, comment je faisais, voilà, comment développer aussi tout ça. Et je crois qu'elles se sont aussi un peu lancées.
Ah, génial, super.
Voilà.
Et oui, je voulais revenir sur le fait que quand tu avais déménagé, enfin, tu as dû reconstruire tout ton réseau professionnel. Et enfin, c'est sûr qu'on ne mesure pas quand même à quel point c'est difficile. Je sais que ça m'a fait ça aussi. Moi, j'étais à Toulouse avant, j'avais fait mes études à Toulouse et j'ai travaillé 2 ans là-bas. Et après, c'était 2 ans de remplacement, et dont un remplacement en structure. Donc, tu vois, c'était quand même pas. Un travail où j'étais installée, où j'avais développé mon propre réseau, etc. Mais mine de rien, juste d'avoir les contacts que tu as eus avec les profs à la fac, les gens qu'on a dans la promotion, etc. Et puis de connaître un petit peu les lieux, les hôpitaux, parce qu'on a fait des stages là-bas, mine de rien, ça faisait quand même un réseau. Et c'était facile de s'y retrouver. Et quand les patients avaient besoin d'être orientés, ils disaient, ah bah oui, bah faut que vous alliez dans tel service, vous demandez telle personne, etc. Et là, quand je suis arrivée à Lyon, en fait, je n'avais pas du tout mesuré qu'il y allait avoir ce changement. Et je me suis retrouvée les premières semaines, on me parlait des hôpitaux Lyon-Sud, j'étais là, mais je ne sais même pas ce que c'est les hôpitaux Lyon-Sud. Donc maintenant, ça va mieux. Mais ouais, je me suis sentie hyper seule au départ parce qu'il n'y avait pas ce réseau, justement. Et que enfin, je ne savais pas où adresser les patients, je ne savais pas qui contacter, quel service était important. Et quand j'en parlais à des orthos qui étaient sur place, elles me disaient, Ah, mais t'as pas essayé le service du professeur machin? Mais non, mais c'est qui ce professeur machin? Et donc, ouais, je comprends ce que tu as pu vivre aussi, bah, surtout que toi, t'étais resté 9 ans à Marseille, c'est ça?
Ouais. Alors
Ouais,
mes
donc.
études, le début, on va dire, en tant qu'orthophoniste, mais c'est vrai que j'avais l'impression que l'apéro ortho, bah, ça n'aurait pas été aussi là si je n'étais pas passée par ces rencontres aussi
Et oui.
parisiennes. Donc,
C'est vrai qu'au final, si tu avais déjà ton petit réseau, etc., tu n'aurais peut-être pas eu l'intérêt de créer ça.
et tu vois, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui parce que c'était vraiment quelque chose de très déstabilisant. Tout n'est pas toujours tout droit, même si bah, à Marseille, c'était bien parti pour l'être parce que c'était facile. J'avais ce que je voulais, les pathos que j'adorais. Voilà, enfin, c'était mes amis, enfin, tout un cercle hyper épanouissant que j'ai quitté voilà, du jour au lendemain. J'ai mis ma lettre dans la boîte aux lettres. Le rachat vient de patientèle, je ne pouvais pas retourner. Donc, j'ai dit à Antoine, bon, ben voilà, maintenant.
C'est fait. Je viens à Paris maintenant, c'est sûr.
Des sous pression.
Mais en tout cas, oui, sur le fait ouais, de déménager et puis après de moins connaître les réseaux de soins, etc., je me demande, je lance un appel aux auditeurs et auditrices. Je ne sais pas si dans certaines régions, il y a des choses organisées
Peut-être avec de la documentation pour dire bah, quand une orthophoniste s'installe dans tel département, et ben, les services intéressants pour les patients pour l'orthophonie, c'est ça. Peut-être les centres ressources autisme, c'est un tel, il faut faire telle démarche, etc. Donc voilà, je lance un appel. S'il y a des auditeurs et auditrices qui ont ça dans leur région, ça m'intéresse de savoir. Peut-être que on peut communiquer ça aussi, ça pourrait être intéressant. On continue sur ton parcours. Donc, on s'était un petit peu arrêté sur Paris. Déjà, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'orthophonie au départ ?
Moi, c'est très particulier. Tu sais, je suis un peu atypique. J'étais en droit, moi. Donc, j'ai suivi tous mes copains, en fait. Hein, clairement, il n'y avait pas partout. À l'époque, allez, vas-y, fac, tu vas en droit, bah ouais, pourquoi pas, tu vois.
Allez, en droit aussi.
Moi, enfin, tu vois, je sais pas, je me suis dit, bon, bah, je suis, hein, clairement, voilà, j'avais aucune pensée de ce que j'allais faire derrière avec cette fac. Et puis là, je tombe à côté d'un mec dans un amphi qui me dit, ah, moi, ma copine, elle tente des concours d'orthophonie. Mais je pense que même moi, j'avais en tête ce que la plupart pensent sur l'orthophonie, enfants, voilà, les pathologies qu'on peut retrouver le plus souvent. Voilà. Donc, je commence à creuser et je me dis, moi, ce qui me rassure, en fait, c'est de passer un concours et de me dire qu'après ce concours, bah, je bosse, mais j'aurai quelque chose. Parce que l'univers fac, en fait, ce n'était pas du tout ce qui me convenait au niveau de
des perspectives.
Des perspectives. Et puis le fait d'y aller, même si tu as des bonnes notes, à un moment donné, il faut passer un concours. Très peu sont pris. Tu me diras, c'est pareil en ortho, mais enfin, c'était pareil en ortho, mais voilà, j'avais une perspective de me dire, au moins là, c'est du sûr, quoi. Ça me rassure, c'est cadré. Moi, je suis très ortho aussi dans l'âme, hein, malgré mes airs très d'aventurière, on va dire. J'ai quand même besoin d'un cadre, hein, quoi qu'il en soit. Je ne suis pas là par hasard, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me renseigner. De là, je quitte la fac de droit. Alors là, c'était le séisme dans ma famille. Mais comment ça ? Mais on ne quitte pas quelque chose en pleine... pleine année, pas jusqu'au bout. Mais en fait, je me sentais plus. Non, j'arrête et je pars en Irlande. Et je suis partie en Irlande en tant que jeune fille au pair. Et puis, je préparais mes concours pour septembre, quoi. Parce que c'était les premiers. Enfin, non, c'était les derniers à l'époque. C'est ceux de Marseille, c'était les derniers.
D'accord.
Au cours d'une année.
Et tu avais réussi à trouver des annales, des choses comme ça ? Parce que du coup, tu n'étais pas en prépa, tu n'étais pas en fac là-dessus ?
Non, à l'époque, en plus, c'était pas aussi, comment dire, peut-être que ça allait pas non plus, mais en tout cas, j'avais pas de facilité à trouver beaucoup de choses, quoi. Donc, t'allais en librairie, t'achetais les livres que tu pouvais, t'avais des réseaux ou pas d'orthophonistes. Alors, j'avais une orthophoniste qui m'a vraiment aidée, une amie d'amis qui m'a reçue, qui m'a expliqué un peu, mais en fait, elle avait plus vraiment de notion de ce qui était demandé, en fait, pour passer le concours, quoi. Donc non, en fait, je ne voulais pas trop perdre mon année non plus. Puis je voulais quitter le fait que tout le monde continue un peu sa vie et que bah, moi, j'avais arrêté tout ce qui était scolaire. Donc, je ne voulais pas trop être en décalage et me dire je vais fumer des cigarettes et boire des cafés en terrasse alors que tout le monde bosse, tu vois. C'était pas trop l'idée, quoi. Donc, je suis partie. J'en garde un très, très bon souvenir. Et puis, j'ai passé Marseille, mais je ne l'ai pas eu, hein, parce que enfin, je pense que je n'étais pas non plus assez préparée. Puis, la vie en Irlande faisait que je n'étais pas non plus tout le temps en train de bosser, quoi. Et voilà, donc, j'ai fait une prépa à Marseille.
OK.
En Nice, parce que déjà, je ne suis pas sûre de vouloir faire la fac à Nice. Moi, partir un peu Nice, c'est ce que je recherche. Donc, aller à l'aventure un peu. Donc, je ne suis pas partie très loin, tu vois. Je suis partie à 2h30 de train. Je me suis dit, allez, banco, on va voir ce qui se passe. Là, j'arrive à Marseille, en plein cours Julien. J'avais une auberge, enfin, une résidence étudiante. Voilà, j'ai bossé, j'ai pas eu mon concours, donc j'ai dit à mes parents, je pars à Paris. Je me voilà à Paris pour travailler ma deuxième année de
prépa.
De prépa. Mmh. Et en parallèle, je faisais la Sorbonne en, en sciences du langage. Et après, j'ai eu mon concours à Marseille. Donc voilà, à Marseille.
Ah, d'accord, mais tu l'avais passé à d'autres endroits, tu voulais pas forcément que Marseille.
Moi, je voulais Marseille, je voulais Paris, je voulais pas Nice. Voilà. En gros, non, j'ai pas passé beaucoup, beaucoup de concours. J'avais tenté Strasbourg et Besançon quand même. Mais voilà,
Ouais.
j'ai rien eu finalement, j'ai eu que Marseille. Voilà, mais j'étais très contente. Je pense que c'était un choix qui me convenait bien par rapport aussi à ce qui se faisait à l'époque, parce que tu avais quand même comment dire, pas des spécialités, mais Marseille, c'était très voix. Je sais qu'à l'époque, il y avait certaines facs qui se...
C'était plus dans un domaine quand même.
C'était plus dans un domaine que moi maintenant, avec tout ce qui est...
Avec la maquette.
Voilà, tout ça, on a moins, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça l'était quand même.
Ouais.
Et encore une fois, je ne connaissais pas trop la voix. Hein, donc, c'est vraiment en cours que j'ai compris qu'en fait, c'était ça qui me plaisait. Voilà.
Ok. Et justement, quel a été ton type d'exercice après les études?
Après le diplôme,
Ouais.
donc en gros, je suis partie, enfin, j'étais hospitalière en neurologie, donc en chirurgie éveillée chez l'enfant et chez l'adulte.
Ok.
J'avais toujours un lien avec le service ORL parce qu'il me faisait participer à pas mal de choses et je les remercierai jamais assez de m'avoir vraiment poussée. Alors, j'avoue que j'ai accepté parce que j'adore être déstabilisée, mais je suis partie à Hong Kong une semaine avec l'équipe, avec Johanna Révis, donner des cours à la fac sur la prise en charge vocale. J'ai
Incroyable.
en fait des mémoires au laboratoire de parole et langage à Aix-en-Provence. C'est là où j'ai pu aussi expérimenter en mettant des capteurs en bouche tout mon protocole de rééducation de la langue. Et tout ce que j'ai mis en place aussi avec la rééducation des comédiens, chanteurs, acteurs et trans.
Ok, et là je reviens juste sur Hong Kong parce que
Oui.
il faut quand même le souligner, c'est assez rare.
C'est dur, Sarah. Mais c'était génial, mais c'était dur. Mais c'était génial.
Là, tu es partie une semaine en fait, et c'était sur 7 semaines où vous donniez des cours. Et toi, comment tu as dû les préparer? C'était en français? C'était en anglais? Enfin, comment tu as dû préparer tes cours?
Ben, on a su ça 2 mois avant de partir. Donc, pendant 2 mois, j'étais au taquet sur tout créer en anglais. Essayer de retrouver un peu les termes de rééducation vocale en anglais. Puis, j'étais aussi accompagnée. Donc, avec Johanna Révis, on se partageait un peu l'emploi du temps.
Oui.
Et sur une semaine, c'était intensif.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on donnait cours tous les jours. On s'était quand même fait une petite escale à Macao, histoire de dire on sort un peu de la fac parce qu'en fait, finalement, on n'a pas trop eu le temps de visiter.
Oui.
Et puis, le soir, on mangeait avec le directeur de l'école d'orthophonie d'Hong Kong. Non, j'en garde de très, très bons souvenirs. Enfin, c'était fun, quoi. C'était.
Une expérience
Ouais.
incroyable. Oh là là.
Ouais.
Et donc toi, tu étais diplômée depuis pas longtemps quand tu as donné ces cours?
J'étais diplômée depuis 1 an et demi.
Ah ouais, en plus.
Ouais.
Donc, t'étais dans la position d'étudiante 1 an et demi après.
Ouais.
C'est toi qui te retrouves à donner des cours à l'autre bout du monde.
Ouais. Et mais ça, après, quand j'avais reçu quand même beaucoup d'étudiants en étant moi-même étudiante dans des services ORL et neuro pendant mes études, donc finalement, ça me dérangeait pas de me retrouver face à un public d'étudiants, tu vois.
Ouais, t'avais l'habitude.
Bah, oui. Puis après, j'aime bien aussi, j'aime bien parler, j'aime bien transmettre. Donc, j'ai pris ça vraiment comme une expérience. Puis il y avait ma maman, quoi, Johanna Révis, qui était là. Si jamais j'avais un problème, elle rattrapait un peu le truc, quoi. Mais on s'est vraiment régalé, quoi.
Super. Et donc, je me demande comment ça se fait que, comme toi, tu étais normalement en service neuro, tu avais toujours ce lien avec l'ORL. Est-ce que c'était parce que dans tes stages, tu avais été hyper présente ou enfin, comment ça s'était fait que, enfin, en étant dans un autre service, le service ORL faisait quand même souvent appel à toi?
Parce que je pense qu'on avait bien accroché, que enfin, j'étais tellement passionnée que finalement, ben, je continuais aussi à avoir des patients en voix. Enfin, et puis finalement, quand tu t'aperçois et que tu prends un peu toutes les pathologies regroupées en orthophonie, il y a toujours un peu un lien dans ta façon de voir les choses, de rééduquer, d'observer. Donc voilà, et puis j'ai eu ces projets-là qui m'ont fait aussi rester avec eux dans des staffs où bah, fallait que j'y assiste pour continuer un peu à préparer les projets qu'on avait en cours. Donc voilà, ce lien-là, je le gardais vraiment. Voilà, après les services à la Timone, c'était le service ORL à l'époque, c'était au 4e et la neuro, c'était au 6e, tu vois. Donc c'était assez facile de pouvoir se voir, d'échanger. Voilà.
Ok, je pensais que c'était plus cloisonné que ça, que tu vois, c'était, tu es dans ton service neuro, tu restes dans le service neuro, en surdité, tu restes en surdité, mais non, du coup, il y a des échanges qui peuvent se faire.
Oui, j'étais pas orthophoniste au service ORL, mais c'est vrai que je décidais souvent, et puis voilà, on échangeait, et puis ces missions que j'avais me permettaient aussi de rester en contact avec eux.
Ouais, ça c'est chouette. Et ensuite, après le service de neuro à la Timone, c'est ça?
Oui.
Ouais, qu'est-ce que tu as fait?
Donc, en neurologie, ben, j'étais rattachée vraiment au bloc opératoire puisque c'était vraiment que de la chirurgie éveillée. Donc, je voyais mes patients en pré-op et en post-op, un tout petit peu en rééducation, mais c'est souvent le cas dans les services hospitaliers puisqu'après, il y a un relais libéral. Et ensuite... Ben, je suis après partie à Paris, quoi. Finalement, ça s'est vite passé puisque je suis partie en 2015 à Paris et j'étais diplômée en 2012, tu vois.
D'accord, ok. Donc oui, au final, tu as fait tes 3 années à peu près dans le service en euros et après, c'était directement libéral à Paris.
Ouais, c'est ça. Donc, découverte de plein de choses comme je te l'ai dit, quoi.
Et une fois arrivée à Paris, est-ce que tu t'es concentrée sur la neuro et l'ORL ou est-ce que tu as reçu peut-être même des enfants, troubles des apprentissages, des choses comme ça?
Non, j'ai tout de suite, alors j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une super ortho à qui j'ai repris sa patientèle, qui faisait déjà un peu comme moi.
Ah, génial.
Donc, en fait, finalement, j'ai repris son cabinet, mais j'ai aussi eu des contacts de son réseau par rapport aux rééducations qu'elle avait.
Oui.
C'était un point neuro, c'est très ORL, mais suite aux orthophonistes que je rencontrais, qui étaient elles-mêmes dans des services, et les étudiants aussi que j'ai commencé à encadrer à Paris, bah, ça fait effet boule de neige. Et du coup, j'ai eu absolument les type de prise en charge que je faisais, voilà, ça s'est un peu mis en place naturellement finalement.
Ouais. Et comment toi, t'as commencé à... Enfin, même pas commencé, comment t'as continué à faire d'autres choses hors du cabinet? Donc là, par exemple, à Marseille, tu avais donné les cours à Hong Kong, tu encadrais des mémoires. Comment t'as continué, même à Paris, en libéral, à faire toutes ces choses hors cabinet?
Ben moi, j'adore. Je pense que c'est dans ma personnalité, c'est-à-dire que soit c'est un TDAH caché, et mes amis te le diront, hein, mes amis ortho, mes amis le voient, hein, ceux qui ne sont pas ortho, mais ils ne savent pas vraiment identifier la chose. Mais ce n'est pas un problème de dire non, parce que clairement, j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit, mais ce n'est pas possible de faire autant de choses, etc. Et finalement, c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est pas je ne sais pas dire non au projet qu'on me demande. C'est plus c'est perché, plus c'est dynamique, plus c'est créatif. Plus... Enfin, moi, j'adore, en fait. Tu vois, même là, le soir, je bosse, je sors, j'ai mes enfants. Hier, comme je te le disais, j'étais à la Fédération nationale des orthophonistes. Je donne bientôt cours au CFUO de Paris. Des projets, j'en ai beaucoup par mois, mais j'adore ça, quoi. Voilà, c'est pas du tout... et c'est pas non plus quelque chose qui me prive de ma vie personnelle, évidemment, puisqu'on arrive à faire plein de choses aussi en famille, quoi. Donc, l'équilibre, je le trouve, ça m'équilibre aussi de faire plein de choses. Donc, l'un dans l'autre, je suis plus... je vais plus dans ce sens-là que ouvrir mon cabinet, fermer mon cabinet et aller chercher mes enfants à l'école, quoi. Voilà, j'ai besoin de ce dynamisme-là.
Ouais, sinon, voilà. c'est pas en ayant quelque chose de classique que toi, tu as ton équilibre. Ton équilibre, il se fait parce que tu as plein d'autres choses à côté aussi.
Ouais, et certains comme ça, et chacun, voilà, ça correspond à chacun. Mais moi, ma façon de fonctionner, c'est pas celle-là. C'est vraiment, en plus, maintenant, je me suis pris un vélo. Donc, je te dis pas, je fonce le cabinet, la crèche, l'école. Voilà, on me taquine. On m'a fait ça aussi. Hein, donc, il fait beaucoup. Hein. Je pense qu'on a, on est vraiment complémentaires là-dessus. Donc, voilà, je ne suis pas toute seule. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que sinon, je pourrais pas faire aussi autant de choses. Mais voilà.
Ok, c'est super intéressant d'entendre aussi ton point de vue et de se dire que bah, ça dépend déjà de ta personnalité, ça dépend de comment tu fonctionnes aussi, mais d'avoir aussi l'aspect famille, de dire que ça n'a pas été un frein, toi, à ta carrière, mais parce que ça te convient comme ça. Et ça peut être ok aussi d'avoir une famille et de pas forcément avoir envie de mettre l'accent sur sa carrière. Et voilà, c'est important, je trouve, que tu le soulignes.
Oui, c'est important parce qu'en plus, on est dans une société où tout le monde se compare à tout le monde. Donc finalement, ma vie est ma vie, la vie des autres est la vie des autres. Et je pense que chacun, il trouve son compte comme il, voilà, comme il veut et comme il souhaite le faire, quoi.
Donc oui, effectivement, toi, tu trouves ton équilibre, c'est ce qu'on disait dans le fait de gérer plusieurs choses en même temps et c'est ce qui fait sens pour toi aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Et c'est aussi ce qu'on peut souligner, ce point-là, et peut-être aussi à peut-être se faire aussi, enfin, se poser la question à plusieurs moments, est-ce que ce rythme convient toujours? Mais moi, pour le moment, il me convient. Et puis peut-être que je réduirai, et puis ou j'augmenterai plus tard, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, voilà, mon rythme, c'est le mien, et j'avance bien comme ça, quoi.
Ouais, et tu te fermes pas du tout la porte à te dire que bah à d'autres moments ça sera sûrement différent et peut-être que ça te conviendra plus ou enfin voilà, tu te fermes pas
Oui,
la porte à ça.
Complètement. Mais tu sais, je trace rarement ce que je fais, donc je me laisse aussi aller à la vie, quoi. Enfin, aux événements, à ce que tu rencontres, aux rencontres, voilà, plein de choses peuvent arriver, quoi. La vie, c'est une valse, hein. Ça va, ça vient, on a besoin d'y aller, de s'arrêter, peu importe, voilà, je saurai aussi le faire en temps voulu.
Oui, et s'il y a besoin.
Et s'il y a besoin, évidemment, t'as raison.
Donc oui, du coup, dans tes autres projets hors cabinet, tu nous en as déjà un petit peu parlé, j'aimerais bien qu'on creuse un peu plus, donc tu nous disais déjà qu'il y avait la FNO, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la FNO?
Oui, alors la FNO, j'ai toujours été administratrice depuis l'année de mon diplôme.
D'accord.
En 2012.
Tu étais déjà engagée quand tu étais étudiante?
Non, pas du tout.
D'accord,
et
ok.
En fait, j'étais dans le cabinet, Véronique Sabadel et Valérie Tcherniak, qui étaient mes maîtres de stage, étaient elles-mêmes syndiquées. On en a beaucoup parlé. J'ai rencontré Isabelle Charles à Marseille. Et en fait, je me suis dit, allez, ça peut être chouette de connaître encore mieux sa profession, mais d'un autre point de vue. Et ça me rassurait en étant jeune diplômée de me dire que j'avais accès à plusieurs informations, une aide juridique, des infos pour l'installation, etc. Donc je me suis dit, bah, on me propose de rentrer en tant qu'administratrice, ben, pourquoi pas? Donc j'ai fait partie du SDO 13, je m'occupais de la communication. Et c'était très sympa parce que c'est des choses nouvelles. Et en fait, quand tu ne lis pas là-dessus ou tu ne te documentes pas, bah, tu apprends. En fait, tout est nouveau. Enfin, tout ce qui se passe en dehors de notre profession, au niveau des ministères, au niveau de la nomenclature, etc., de plein de choses que l'on peut voir, bah, du coup, c'est une sacrée... ouverture sur notre métier aussi.
Ouais.
Donc, voilà, puis c'est des rencontres le soir, c'est des réunions de travail plutôt plaisantes puisque ben, on commence à se connaître et puis c'est une vraie équipe, donc c'est chouette. Et en arrivant à Paris, je me suis tout de suite rapprochée du syndicat Et j'étais toujours présente dans l'équipe. Mais cette année, notamment, enfin non, l'année dernière, au congrès d'Arles, à l'élection de Sarah De Giovanni, je suis rentrée dans deux commissions, la commission exercice libéral et la commission communication.
Ok. Est-ce que c'est possible d'habitude d'avoir ces d'être dans deux alors comment on dit deux commissions, c'est ça? Ouais, d'être dans
Oui.
deux commissions, ça se fait habituellement ou normalement c'est plutôt dans une.
Alors, il y en a qui le sont, c'est juste que
Ouais.
ça. Alors, tu en as plusieurs hein, de commissions, exercice salarié, voilà, tu as plusieurs commissions, mais moi, celle qui me correspondait le plus, ben, communication, on l'aura compris, hein, c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Donc, voilà, on se penche sur l'écriture d'articles pour l'orthophoniste, on fait des visuels, des infographies pour reprendre un peu ce qui s'est fait récemment dans la profession, les différentes rencontres avec les ministères. Voilà, donc on gère vraiment tout ce qui est communication de ce qui se passe au sein de la Fédération nationale vers les orthophonistes. Et exercice libéral, et ben, on reprend vraiment. On écoute vraiment les orthos sur leur retour qu'elles nous font sur l'exercice libéral. Et puis nous aussi, on informe de ce qui se passe pour la profession, pour les libéraux, quoi.
Ok.
Parce que moi, c'est ma commission. Après, il y a énormément de
Oui.
commissions. Voilà.
D'accord. Et ça te demande quel investissement vous vous réunissez à quelle fréquence?
Et ben finalement, Émilie me dit ouais, c'est deux, trois fois par an, etc. Finalement, c'est un sacré engagement parce que ben c'est une équipe aussi, donc on a des missions. Alors on se réunit en effet pas tant de fois que ça en présentiel, mais on
Ouais.
fait quand même réunion une fois toutes les 6 semaines en visio 2 heures. Et puis entre-temps, tu as quand même des choses à faire sur bah, des visuels à créer, des missions qu'on te donne
Ouais.
pour voilà, continuer à faire avancer tout ça.
OK. Et donc ça, c'était l'aspect, la casquette FNO. Qu'est-ce que tu as d'autre comme casquette?
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme casquette? Ben, je suis prof donc au CFUO de Paris,
Ouais.
où je suis dans 2 modules, ben, les modules voilà,
Tes
avec
modules de
lesquels
prédilection.
qui sont le module de rééducation vocale, où je m'occupe de transmettre aux étudiants tout ce qui est bilan de la voix au niveau des analyses acoustiques.
D'accord.
Et là, j'ai accepté de continuer dans le module en prenant tout ce qui est rééducation de la voix chantée.
OK.
Voilà. Et ensuite, en neuro, où je m'occupe des bilans de la communication chez la personne aphasique.
D'accord, super
Ouais.
intéressant. Donc,
Ouais.
déjà, sur l'enseignement, tu as deux domaines aussi où tu enseignes.
Voilà. Et après, je me déplace aussi en tant que formatrice sur mon domaine OMF, où je mets en avant tout ce que j'avais récolté au LPL sur mes données qui m'ont permis aussi de monter ma prise en charge de rééducation de posture linguale.
Et il me semble que tu as fait de la recherche également?
Oui, j'étais rattachée à un labo de recherche en encadrant un mémoire sur tout ce qui était posture de langue. On avait eu un sacré financement de la part des gueules cassées
D'accord.
qui nous avait permis d'aller chercher des électrodes très spécifiques, de les poser en bouche, de voir un peu comment ça se passait quand la langue était au contact de ces électrodes lors de la déglutition, du repos. Il y a un peu d'articulation, mais c'était
OK.
pas trop phonation, c'était surtout déglutition et repos.
D'accord. Et est-ce qu'il y a les résultats de cette étude qu'on peut consulter quelque part?
Alors, je peux mettre les résultats de ce mémoire en lien si tu veux. Je crois qu'il est sur le site En bonne voie.
Ok, super.
Mais je peux te le transmettre sans aucun problème.
Eh bien, on pourra mettre peut-être le lien aussi dans la description du podcast. Et ça nous amène justement à En bonne voie, très bonne transition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est en fait En bonne voie?
Alors, en bonne voie, bah, tu vois, malgré ce que je faisais déjà avant en ayant plusieurs casquettes, j'avais envie de mettre en avant ce que je savais faire sur toutes les formations que je donne et les cours que je donne aussi. En gros, c'est, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimerais trouver? Parce que des formations, en plus, les orthophonistes, on est fort pour être formés, on aime ça. Enfin, c'est une profession qui se forme énormément. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posée parce que je me suis dit, ouais, j'ai quand même fait pas mal de formations. Qu'est-ce que j'aimerais maintenant voir? Qu'est-ce qui me plaît dans la transmission aux étudiants? Qu'est-ce qui plaît aux étudiants aussi quand je leur donne un cours? Quand je bois aussi un coup avec mes copines ortho et mes copains, ben, qu'est-ce qu'ils me disent, eux, de ce qu'ils aimeraient aussi avoir? Enfin, tu vois, c'est un peu, au fur et à mesure des années, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. Et ce n'est pas Covid ou pas Covid, ça n'a rien à voir. C'est mon envie avant tout de me dire que j'avais envie de mettre ça en place.
Oui.
Et aussi la rencontre avec des équipes qui ne sont pas forcément que des orthos. Parce
Ok.
que ça fait bien de sortir du monde aussi des orthos. Mon mari aussi me dit souvent, là, mais on sort un peu de là-dedans, c'est très bien. Et il a raison des fois de le dire parce qu'on est toujours happé à en parler souvent. Puis c'est toujours un métier qui questionne aussi. Donc forcément, quand on rencontre quelqu'un, ça y va. Et finalement, je me suis dit, avec tout ça, j'aimerais créer ben, une vraie cuisine à transmettre, un peu de ci, un peu de ça, toujours avec mon envie de communiquer, rigoler, avec bonne humeur et faire des rencontres. Et c'est ce qui se passe parce que les formateurs qui viennent, à chaque fois, c'est un sacré week-end ensemble, mais c'est à la fois, j'ai joué le jeu de dire, vous venez chez moi manger. Voilà. Parce que j'ai envie aussi qu'ils découvrent mon univers autre que l'orthophonie. Puis c'est aussi une façon de se connaître qui est différente que dans un bar ou dans un resto la veille du tournage. Donc voilà, c'est un vrai week-end d'échange. Ensuite, on file au studio de tournage qui est à Montreuil, qui est tenu par Simon Champré de la société Ambrosia. Et c'est pareil, Simon, il n'est pas ortho, quoi. Donc c'est sympa parce que tu vois, quand on s'écrit des mails la semaine, bah, je parle d'autres choses. Mais pour le coup, bah, lui, il en entend parler des orthos. Et César, qui s'occupe de tout ce qui est web, qui a mis en place le site, voilà, c'est vraiment des équipes, des jeunes, hein, franchement, je leur fais entièrement confiance parce qu'ils sont brillants, ils sont intelligents sans être ortho, ils arrivent à me dire, ouais, mais ça plairait peut-être parce que, voilà, il y a une finesse qui fait que c'est une équipe qui roule et je me sens bien aussi avec eux.
Ouais. Et donc, pour resituer, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas,
Oui.
en fait, c'est une plateforme, on pourrait appeler ça une plateforme de formation.
Oui, c'est tout nouveau, hein. Donc c'est une plateforme de formation qui porte la voix des formateurs. En bonne voie, c'est pas, je ne trouve pas que de la voix, c'est la voix enfin, que les formateurs portent sur la plateforme.
Ouais.
Et en fait, oui, donc il y a des formations en ligne, hein, on a commencé à en mettre quelques-unes, et puis on a développé aussi les entretiens individuels parce qu'on s'est dit, ouais, c'est sympa, mais après, les orthos qui ont des questions sur la formation, pourquoi pas avoir ben, les formateurs en ligne et disponibles? Bien sûr, pas H24, hein, mais voilà, sur un calendrier bien précis sur le site pour prendre un rendez-vous avec eux si on a des questions ou un patient ou un cas clinique à exposer. Mais c'est aussi des soirées gratuites parce que je voulais que ça soit aussi accessible à tous. Et ça, je l'avais déjà créé en parallèle, ça s'appelait Parlons d'orthophonie à l'époque. Et j'ai fusionné avec En Bonne Voie parce que je me suis dit que c'était aussi dans le cadre et dans la philosophie d'En Bonne Voie de transmettre gratuitement ces soirées avec des intervenants qui sont toujours contents de participer. Voilà. Et alors tout le monde me dit, oui, mais quand les formateurs veulent parler sur En Bonne Voie et qu'ils m'appellent, ils me disent, mais c'est quoi ton axe? Mais en fait, il n'y a pas d'axe, c'est libre, justement. Éclatez-vous, faites-nous aimer ce que vous faites, donnez-nous envie de le faire. Et en fait, c'est ça que je veux créer en orthophonie. Je sais que je ne révolutionne pas l'orthophonie avec En Bonne Voie et je ne souhaite pas le faire. C'est mon parcours, c'est ma façon de transmettre, mais ça existe et c'est pas du tout novateur. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une envie de mettre mon énergie aussi à disposition des orthos avec plusieurs choses qu'on pourrait trouver sur la plateforme.
Génial, super projet.
Voilà.
Comment ça se passe concrètement? C'est des formateurs qui te contactent toi et qui disent bah, « en fait, ta plateforme me plaît et j'aimerais participer aussi en mettant une formation sur ta plateforme ».
Alors ouais, en plus moi tu sais, je suis très années 70, c'est-à-dire que j'aime taper à la porte du voisin, boire un café avec lui et pas trop les réseaux parce que finalement,
Ouais.
C'est pas enfin, j'ai découvert vraiment un monde sur Insta, etc. Et je pense que j'étais pas prête à me dire ah ouais, c'est comme ça que ça marche maintenant. Mais c'est très agréable parce que franchement, tout le monde joue le jeu. Enfin, tu vois, c'est agréable de faire ces rencontres-là aussi. Et puis finalement, ça t'amène aussi d'autres choses. Mais moi, au début, j'ai ma casquette, allons boire un café, comme nous, là, tu vois, on fait ça en visio, mais. Typiquement, on aurait pu très bien prendre un café ensemble, ça aurait été pareil, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est vraiment de se dire que les formateurs sont venus à moi parce qu'ils aimaient mon dynamisme et ma façon de proposer aussi les choses. Et je pense qu'ils se sont embarqués avec moi parce que bah, j'étais assez ouverte aussi à ce qu'ils proposaient. Et puis c'était aussi une aventure humaine. Enfin, c'est un échange. Tu proposes pas une formation comme ça sur une plateforme avec laquelle tu n'es pas en adéquation, quoi. C'est un univers, une plateforme. C'est une vitrine de ce que l'on est finalement et de ce qu'on ressent et de ce qu'on veut transmettre.
Et je me demande, bon, c'est pas très orthophonie, mais ça m'intéresse, j'adore tout ce qui est coulisses, etc. Au niveau des tournages, comment ça se passe? Toi, tu restes sur place aussi pendant les jours de tournage de la formation? Tu y assistes?
Ouais. Donc c'est des locaux hyper sympas en cœur de Montreuil, très atypique parce que c'est un espèce de grand local avec une vieille charpente. Et puis c'est une société qui a vraiment tout le matos de tournage. Donc ils ont à la fois plein de papiers colorés. Enfin, c'est assez magique comme univers, quoi.
Génial.
Et donc du coup, ben oui, je reste. Je mets aussi à l'aise parce que ben j'ai pas trop mon mot à dire finalement. Moi, je laisse vraiment. En fait, à partir du moment où je fais confiance, et c'est là où la confiance se crée, c'est que voilà, ça se passe quoi. Et y a pas du tout de stress parce que ben, la mayonnaise prend et on passe une super journée quoi.
Ouais, et du coup, ouais, toi, ça te fait un petit peu aussi une autre casquette de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, directrice, enfin je sais pas trop, où tu supervises un petit peu, mais en même temps il faut que tu mettes la personne à l'aise, enfin ça fait un peu agent aussi.
Oui, je pense que c'est surtout, je suis là pour mettre en confiance. Je pense que les formateurs ont confiance en moi aussi et me posent des vraies questions sur les thèmes qu'ils abordent et voir aussi mon point de vue, etc. Donc, c'est aussi des casquettes que je prends pour organiser, pour planifier, pour aider, pour donner mon point de vue et tout ça, bout à bout, ben, du coup, c'est assez complet, quoi.
Ouais. Et je
Donc,
me demande, est-ce que tu as déjà eu des inquiétudes par rapport vis-à-vis du fait que tu aies monté cette plateforme? Parce que je me dis que mine de rien, ça demande de pouvoir louer les studios. Enfin, c'est quelque chose qui peut-être demande plus d'investissement en termes de temps et financier que par exemple des cours à la fac ou de la recherche.
oui, c'est complètement différent. Après, ça dépend toujours de ce que tu veux en faire.
Ouais.
Moi, j'avais mon idée en tête. Donc, je savais à peu près comment j'allais m'y prendre, avec quel budget j'allais m'y prendre aussi, parce que c'est des choses que, bah oui, c'est pas gratuit, évidemment. Ça se prévoit, ça se met en place, etc. Et aussi, avoir la possibilité d'avoir un vrai site qui est aussi, comme je le disais, une vitrine de ce que tu reflètes et ce que tu as envie d'y mettre pour que ça fonctionne, quoi.
Oui.
L'idée, j'ai plein de projets pour en bonne voie parce que ben, ça fuse toujours et que je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Mais tu vois, j'ai souvent l'habitude de dire, et je ne suis pas du tout une gameuse, hein, je déteste jouer, je ne suis pas du tout dans les jeux, enfin même les jeux société. Mais par contre, j'ai l'impression d'ouvrir des mondes, tu sais, genre, tiens, et pourquoi ça pourrait être vraiment complémentaire de faire ça? Tiens, j'ouvre une porte, j'ouvre un monde. Et du coup, je découvre, en fait, et je prends vraiment un plaisir à faire ça parce que même dans les visuels que je crée, parce que tout est fait maison sur En Bonne Voie. Tout le monde pense qu'on est une équipe, etc. Pas du tout. Je suis Élodie Minguelli, toute seule à la tête d'En Bonne Voie. Bien sûr, il y a César et Simon qui sont avec moi pour encadrer tout ça. Mais voilà, moi, je prends un vrai plaisir à découvrir ce monde-là et ces créations-là, quoi.
Génial. Et j'ai vu justement que y avait une partie sur ta formation de... Ah mince, comment ça s'appelle? Tu sais, sur les modèles anatomiques en dynamique. Zut,
ah oui. Tout ce qui est...
animation.
Oui, tout... En fait, j'ai monté tous les exercices en 3D.
Oui.
Pour que les orthophonistes comprennent bien, quitte à le montrer aussi aux patients pour qu'ils voient bien l'exercice.
Donc, et donc ça aussi, c'est quelque chose que tu as fait toi-même?
Non, ça, je ne l'ai pas fait moi-même.
Ah, j'allais dire waouh, mais ça me semble hyper compliqué, ça.
Non, mais je trouve que c'était un point en plus sur ce type de prise en charge, parce que mis à part, et je le vois quand je donne des formations en présentiel, mis à part le montrer, ben des fois ça reste pas toujours. Tu sais, il y a un biais entre ce qu'on voit et ce qu'on on peut refaire. Et on le voit avec nos patients, par exemple. On leur montre un exercice, ils repartent chez eux pendant une semaine ou 15 jours, ils reviennent. Il y a des fois un biais entre ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont mis en place. C'est normal, enfin, ils ne sont pas ortho, etc. Donc moi, j'ai tendance à me filmer énormément avec mes patients, à leur laisser des petites vidéos de moi pendant la séance en train de refaire les exercices pour éviter ces biais. Mais comme ces formations ne sont pas en présentiel et sont en ligne, je me suis dit que c'était un vrai support pour que l'exercice reste.
Ouais, c'est une super idée de faire ça. Et c'est vrai que même pour les patients, souvent, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à visualiser parce qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est pas comme si c'était, enfin, on faisait travailler la main ou pas. Après, j'en sais rien, je suis pas kiné, peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plus visuel sur d'autres aspects, alors que là, en ORL, c'est des choses qui ne se voient pas directement de l'extérieur, quoi.
Oui, c'est ça, c'est toujours, puis c'est une proprioception, ouais. C'est pas facile de savoir où est sa langue. C'est comme quand les patients ont des aphonies, ils se rendaient pas compte que la voix était aussi importante que ça. Quand ça fonctionne, en fait, on s'en rend pas compte. Mais quand ça commence à fonctionner, en prendre conscience, bah, c'est toujours un vrai chemin, quoi.
Complètement.
Et on voit qu'en fait, ça marchait, ça marche plus. Donc maintenant, il faut y aller, il faut ressentir, il faut essayer de comprendre et de voir. Donc on passe par plusieurs phases d'explication, finalement.
Et si on revient maintenant sur En Bonne Voie, qu'est-ce que tu aimerais développer justement à l'avenir sur En Bonne Voie?
Sur En Bonne Voie, mais j'ai toujours plein d'idées parce que j'aime aussi rencontrer physiquement les gens. Donc, j'ai une prochaine idée de se rencontrer dans un lieu atypique parce que j'aime le côté atypique avant tout. Et en petit comité, en mode manipulation et pratique concrète de ce qu'on propose. Donc ça, c'est vraiment un souhait, mais vraiment tout petit comité, quitte à mettre aussi dans la journée d'autres intervenants en dehors de notre profession aussi pour nous faire comprendre certaines choses. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais développer. Et puis, on va alléger un peu aussi certains formats pour que ça soit accessible à tout le monde et que les étudiants puissent aussi avoir l'accès à certains tips pour consulter sans pour autant avoir une formation complète, mais s'en sortir avec quelques pistes dès la sortie de l'école, quoi.
Ok, génial. Et alors, en dehors d'En Bonne Voie aussi, toi, qu'est-ce que tu as comme projet à venir? Donc, tu nous disais, tu as rajouté des cours à la fac. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont changer dans les prochains mois, prochaines semaines?
Écoute, là, pour le moment, je pense que j'ai le cerveau un peu pris, un peu plein. Je vais déjà mettre en place tout ça progressivement. Et puis, tu sais, si demain, on m'appelle pour me proposer quelque chose, ça
sera peut-être...
qui est valable aujourd'hui n'est plus valable demain, hein, tu sais. Donc là, à l'instant T, j'ai assez de matière pour continuer. Après, on verra bien ce qui se passe. Je vis vraiment ce que au jour le jour et j'accepte aussi de partir à l'aventure sans problème.
Génial. Eh ben, on va arriver vers la fin de cet épisode, Élodie. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
Bah, moi, je pense que ce que j'ai ressenti, ce que je ressens, ce qui ne part pas toujours, c'est le doute. On doute beaucoup de nous. Alors, dans cette profession, je ne sais pas, mais c'est ce que j'entends quand même et c'est ce que je perçois aussi. C'est essayer de, voilà, de se dire, bon, bah, on adore se former, mais essayons maintenant de cuisiner avec nos éléments qu'on a en tête en se faisant confiance, même si le doute ne part jamais vraiment. Mais je pense que c'est important de se dire, on a assez de choses et on voit ce qu'on peut faire avec, tout en étant bien sûr ouvert sur ce qui peut se passer aussi ensuite. Mais je trouve que voilà, se faire un peu plus confiance et porter notre profession en ayant plus de confiance sur ce qu'on propose, c'est ce que je pourrais te dire, Sarah, parce qu'on a tendance quand même à sacrément douter.
Ok, ben c'est un super message en tout cas que tu partages et qui, je pense, va résonner pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, merci beaucoup, un énorme merci d'être venu parler sur la parole aux orthophonistes. C'était super chouette de découvrir ton parcours très diversifié. Comme tu me l'avais dit, effectivement, il y a plein de choses dans ton parcours. Et si on a envie de suivre là tous tes projets, notamment en bonne voie, où est-ce que tu peux renvoyer les auditeurs et auditrices?
Bah sur déjà merci à toi Sarah parce que
Avec grand plaisir.
j'étais vraiment ravie et j'avais hâte de notre échange ce matin. Bah sur la page Insta où là, je relais quand même pas mal d'actualités puis des prochains projets qui peuvent se passer et sinon sur le site que je mets à jour puisque toutes nos soirées figurent dans la partie actualité donc vous pouvez vraiment être au courant de tout ce qui se passe.
Super. Eh ben, on mettra tout ça dans la description.
C'est super
Et
simple.
Je te dis encore un grand merci et à bientôt.
Oui, à bientôt Sarah, merci à toi.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à La Parole aux Orthophonistes.